Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinine, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 14 septembre 2022. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Les sanctions unilatérales ont affecté le droit au développement du peuple iranien. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, sommet de l'OCS, l'Iran cherche à jouer un rôle plus actif dans la région, a déclaré le président Raïsi avant son départ pour l'Ouzbékistan. PGAC, un accord peut être trouvé si la partie américaine est réaliste, déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian. Et puis la rencontre du chef du Hamas avec plusieurs hautes autorités russes à Moscou. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président iranien Ebrahim Raïsi a quitté ce mercredi Téhéran pour l'Ouzbékistan pour une visite qui vise à renforcer le multilatéralisme et la coopération entre les États voisins. S'exprimant avant son départ vers la ville de Samarkand, le président iranien a exprimé l'espoir que la visite contribuerait à renforcer les relations bilatérales dans divers domaines. Il a également souligné l'importance d'utiliser les infrastructures disponibles pour la mise en exploitation des potentiels régionaux. Au cours de son séjour, Ebrahim Raïsi tiendra une série d'entretiens avec de hautes autorités ouzbèques. Les deux pays devraient signer 18 documents de coopération bilatérale. S'exprimant toujours avant son départ, le président a indiqué que l'expansion des relations avec les voisins et les pays de la région demeure l'une des priorités et la politique de principe du 13e gouvernement. Dans la première étape, nous avons pu renforcer la confiance politique mutuelle et pour un deuxième pas, nous suivons l'augmentation du rôle de la République islamique d'Iran et sa présence active dans la région, a-t-il fait valoir. Ebrahim Raïsi assistera ensuite au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui se tiendra à Samarkand les 15 et 16 septembre. La visite s'effectue à l'invitation du président ouzbek pour une rencontre bilatérale officielle et pour participer au sommet de l'OCS en tant que membre permanent depuis septembre 2021. L'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, réunit la Russie, l'Inde, le Kazakhstan, la Chine, le Kirghizistan, le Pakistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et l'Iran. Les pays comme l'Afghanistan, la Biélorussie et la Mongolie disposent d'un statut d'observateur. Et la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, le Cambodge, le Népal et le Sri Lanka sont les partenaires du dialogue de l'organisation. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'il était toujours possible de parvenir à un accord final sur la relance de l'accord multilatéral nucléaire de 2015 si la partie américaine agissait de manière réaliste. Hossein Amir Abdollahian a tenu ses déclarations lors d'un appel téléphonique mardi avec son homologue nigérian Geoffrey Onyema. Le chef de la diplomatie iranienne a réaffirmé l'engagement de Téhéran à poursuivre les négociations avec les autres parties à l'accord conclu sous le nom du plan global d'action conjoint sur le nucléaire, PGAC, ou JCPOA, selon son acronyme anglais. Le très haut diplomate iranien a dit Téhéran déterminé à parvenir à un accord solide et durable avant d'exprimer l'espoir de voir l'agence nucléaire de l'ONU, AIOA, remplir ses fonctions techniques loin de toute politique politisée. L'Iran fustigeant récemment les politiques partiales et partielles de l'agence viennoise, avait déclaré que les allégations du chef de l'AIOA sur une prétendue absence de réponse de Téhéran sur la question des sites non déclarés manquaient de fondement juridique. Téhéran dit qu'il remplirait ses engagements liés au PGAC une fois l'accord en agonie du PGAC rétabli, les sanctions levées et les autres parties signataires du pacte retournées à leurs obligations vis-à-vis de l'Iran en vertu de l'accord. L'Iran et les autres signataires de l'accord attendent maintenant une réponse officielle des États-Unis qui ont unilatéralement quitté l'accord sous le milliardaire Donald Trump en 2018. Pour Téhéran, les accusations fabriquées et politisées proférées par l'Agence internationale de l'énergie atomique et la partie occidentale, alimentées par des tierces hostiles contre Téhéran, qui demeurent source de tensions, devraient être définitivement résolues au Conseil des gouverneurs de l'AIOA avant de la conclusion de tout un accord. Un potentiel accord attendu à Vienne visant à lever les sanctions et à restaurer le PGAC ne devrait avoir aucune ambiguïté et doivent entièrement assurer les intérêts nationaux du peuple iranien, insiste Téhéran. L'Iran rejette les allégations du directeur général de l'AIOA concernant une prétendue lacune dans les réponses de Téhéran à l'agence sur le programme nucléaire du pays. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIOA, réagissant aux allégations de Raphaël Grossi concernant un vide de surveillance, les a qualifiés de sans fondement juridique. Behrouz Kamolbandi a déclaré que Grossi faisait référence à une question liée à l'accord de 2015 qui n'a jamais été pleinement respectée par la partie d'en face. L'existence d'un prétendu vide de contrôle et le fait d'avancer des allégations selon lesquelles ce vide s'agrandit de jour en jour n'a aucune base légale, car ce qui n'a pas été fait aujourd'hui par l'Iran est une réaction faite légalement au titre même de l'accord du PGAC signé entre l'Iran et les 5+1, à savoir les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Chine et la Russie, et la République islamique d'Iran est endossée par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Ainsi, la réaction iranienne intervenue conformément à la loi d'action stratégique du Parlement après le retrait unilatéral des États-Unis du PGAC et la réimposition des sanctions pour faire lever les restrictions et en neutraliser ses effets constitue le droit légal et légitime de l'Iran et vise à assurer les intérêts de la nation iranienne qui attend toujours les résultats escomptés prévus dans l'accord nucléaire de 2015. Monsieur Kamolvandi a ajouté que l'Iran a déjà fourni à l'AIOA des informations et une réponse sur 3 sites non déclarés et a même tenu des pourparlers pour dissiper toute ambiguïté. Il a également exhorté l'agence viennoise à ne pas fonder son jugement sur des documents montés de toutes pièces et fabriqués par le régime israélien. La diplomatie iranienne s'est dite toujours prête à coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour balayer les doutes soulevés par cette dernière sur le caractère pacifique de son programme nucléaire. Une délégation de haut niveau du mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, en visite à Moscou depuis plusieurs jours, continue de discuter de questions d'intérêt commun avec de hautes autorités russes. Les représentants du Hamas ont eu des entretiens avec le président de la Commission des affaires internationales de la Douma russe et le président de la Commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération de Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a également rencontré le chef du bureau politique du groupe palestinien à Moscou dans la journée de dimanche. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, dirige la délégation qui comprend des membres du bureau politique. La partie palestinienne a souligné la nécessité de maintenir une relation stratégique avec la Russie lors de cette visite effectuée à la demande de Moscou. Les deux parties ont également discuté de la situation actuelle des Palestiniens dans les territoires occupés ainsi que des violations israéliennes. L'invitation au groupe palestinien de la résistance survient dans un contexte de détérioration des liens entre le Kremlin et le régime de Tel Aviv. Les tensions se sont récemment intensifiées entre la Russie et Israël, largement en raison du soutien du régime de Tel Aviv à l'Ukraine, ainsi que de ses attaques répétées contre la Syrie. La Russie met en avant comme but de son opération militaire spéciale la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, ainsi que la défense des populations du Donbass ciblées par des bombardements ukrainiens depuis 2014. Au mois de mai, Sergueï Lavrov, critiquant vivement les politiques partiales et non constructives israéliennes concernant l'Ukraine, avait déclaré qu'Adolf Hitler avait du sang juif et que les sionistes faisaient partie des pires antisémites. Sachez d'autre part qu'il y a quelques heures, les forces israéliennes ont tué deux hommes palestiniens dans la ville cisjordanienne de Jenin au milieu de l'escalade des tensions dans les territoires occupés. Selon les médias israéliens, les deux hommes ont perdu la vie lors d'un échange de tirs présumé au poste de contrôle de Jalma, au nord de Jenin. Depuis des mois, l'armée israélienne mène une campagne brutale pour briser la résistance croissante dans le camp de réfugiés de la ville. Les forces du régime israélien ont également pris d'assaut plusieurs endroits de la ville cisjordanienne de Jenin, faisant 4 blessés palestiniens et en arrêtant 23 autres. Des sources locales ont déclaré à l'agence de presse palestinienne Wafa que les forces israéliennes ont attaqué la ville et son camp de réfugiés pour prétendument arrêter des activistes. Les Palestiniens ont affronté les forces qui ont tiré des grenades assourdissantes et lacrymogènes sur les Palestiniens, provoquant un certain nombre de cas de suffocation. Les tensions restent vives dans toute la Cisjordanie, alors que l'armée israélienne a intensifié ses raids quotidiens. Selon des sources palestiniennes, les forces du régime ont tué depuis le début de cette année quelque 120 personnes en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza assiégée. Face aux évolutions, le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, a affirmé dans une déclaration émise à l'occasion du 17e anniversaire de l'expulsion du régime d'occupation de la bande de Gaza que les Palestiniens continueront leur lutte jusqu'à ce qu'ils rétablissent leurs droits bafoués et qu'ils chassent les occupants de leurs terres ancestrales. Le mouvement a déclaré que les Palestiniens continueront de soutenir l'option de la résistance sous toutes ses formes. Les Palestiniens sont systématiquement soumis à des centaines de crimes et exactions israéliens devenus presque quotidiens, tels que des raids sur des bâtiments et des lieux saints, ainsi que des prises d'assaut et des démolitions systématiques de maisons. Les opérations israéliennes ou crimes de guerre, selon les observateurs et les groupes de la défense des droits de l'homme, violent toutes les lois et conventions internationales. Les forces du régime ciblent régulièrement des civils innocents. Un grand nombre de personnes ont été tristement tuées après 3 jours de bombardement du régime d'occupation lors d'une récente offensive sur la bande de Gaza. Le monde assiste passif et silencieux à ces violences israéliennes. Et un mot du football, le nouveau sélectionneur du Team Melli, l'équipe nationale iranienne, arrive à Téhéran. L'entraîneur-chef portugais de l'équipe nationale iranienne de football est arrivé à Téhéran aujourd'hui pour commencer son travail dans l'équipe nationale de foot. une semaine après l'annonce officielle de la sélection de Carlos Queiroz comme entraîneur-chef de l'équipe nationale de foot. Cet entraîneur et ses assistants sont arrivés ce matin à Téhéran pour que l'entraînement de l'équipe nationale commence à partir même d'aujourd'hui. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. Les sanctions unilatérales ont affecté le droit au développement du peuple iranien. Tout en soulignant les effets destructifs des sanctions unilatérales sur les droits humains du peuple iranien, le vice-chef aux affaires internationales du pouvoir judiciaire d'Iran, s'adressant au rapporteur spécial de l'ONU, s'interroge : comment l'accès aux principaux revenus et ressources financières d'un pays peut être entravé et rester l'objet des restrictions, notamment par le biais d'un embargo contre l'exportation pétrolière. Kazem Gharibabadi, secrétaire général du Conseil suprême iranien pour les droits de l'homme, a rencontré le rapporteur spécial des Nations unies pour le droit au développement, Saad al-Farigi, à Genève et discuté avec, en marge de la 51e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Les deux hommes se sont dit préoccupés par les violations de droit au développement et au bien-être du peuple iranien. Lors de cette réunion, tout en soulignant l'importance de la réalisation du droit au développement pour les pays en développement ou moins développés, Kazem Gharibabadi a annoncé le soutien total de la République islamique d'Iran à la mission du rapporteur spécial. Il a déclaré à propos de la réalisation du droit au développement, dixit, garantir et mettre en œuvre le droit au développement exige une coopération internationale, une solidarité mondiale et une responsabilité partagée. Le secrétaire général du Conseil suprême des droits de l'homme de la République islamique d'Iran a poursuivi : nous attendons de tous les rapporteurs spéciaux de l'ONU, en particulier ceux qui traitent des droits économiques, qu'il demande au gouvernement de s'attaquer aux obstacles et aux défis auxquels est confrontée la mise en œuvre du droit au développement, en particulier aux mesures coercitives unilatérales, car ces restrictions inhumaines et unilatérales violent les droits des nations. Ces mesures augmentent le coût du développement pour les gouvernements et privent les nations de l'égalité des chances de développement tant au niveau régional et international. Les sanctions unilatérales ont systématiquement affecté le droit au développement du peuple iranien. Tout en expliquant les actions de l'Iran pour réaliser le droit au développement du peuple iranien, le secrétaire du siège des droits de l'homme, se référant au rapport du rapporteur spécial sur les mesures coercitives unilatérales visant l'Iran, a demandé au rapporteur spécial sur le droit au développement d'attirer l'attention internationale sur cet obstacle fondamental au développement des pays sous sanctions. Le rapporteur spécial onusien a pour sa part qualifié l'application de sanctions unilatérales d'exemple d'abus de pouvoir qui peut rendre difficile la réalisation du droit au développement.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, malgré le fait que la France ait retiré ses troupes du Mali et bien sûr essaie encore de contrôler encore le Mali et d'autres pays voisins tels que le Burkina Faso, le Niger, etc. Mais le Mali ne veut rien savoir de France. Justement, la France qui a pillé la richesse de ce pays pendant 8 ans sous prétexte de lutter contre le terrorisme est partie, bien sûr, et naturellement, le Mali, les responsables maliens ont déclaré qu'ils détenaient des preuves selon lesquelles la France même fournissait des armes et des renseignements aux terroristes. Voilà. Nous allons également parler de l'arrestation de 49 Ivoiriens, des soldats ivoiriens, sur le sol malien qui ont entré illégalement dans ce pays. Et le Mali, bien sûr, exige l'extradition des responsables et des dirigeants maliens qui se sont donc cachés en Côte d'Ivoire. Voilà. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à vos collègues et à toute votre équipe.
C'est un plaisir de vous recevoir, M. Luc Michel. Un grand bonjour à M. Elie Hatam, juriste international depuis Paris. M. Hatam, bonjour.
Bonjour et merci de votre invitation. Et un très grand bonjour à mon ami, M. Michel.
Merci de consacrer votre temps à l'émission du débat, un débat qui s'annonce prometteur. Ma première question va s'adresser à vous, M. Luc Michel. Alors, vu la situation en Afrique et la France qui fait tout pour revenir donc dans certains pays, dont le Mali, alors que le Mali ne veut rien savoir de France, que pensez-vous ?
Il faut comprendre quelque chose, c'est qu'il y a deux blocs en Afrique, le bloc américain occidental et le bloc de l'Est qui se font la guerre. Et le Mali et la Côte d'Ivoire, ce sont des proxys, comme on dit en anglais, de cette guerre qui est menée par procuration. Le Mali a fait le choix du bloc de l'Est. Il y a un axe Algérie, Russie, Mali qui est actuellement, qui fait la guerre aux Occidentaux, qui s'oppose aux Français, aux Allemands et surtout aux Américains. De l'autre côté, Ouattara, c'est une marionnette des Français. Depuis la neutralisation du Sénégal, les Français et les Américains ont quitté le Sénégal. Et aujourd'hui, la base arrière des Occidentaux, c'est la Côte d'Ivoire où sont déployés notamment les forces spéciales françaises et américaines. À partir de Abidjan, il y a un certain nombre d'opérations de déstabilisation du Mali. Il y a un président qui se déclare le président élu du Mali, qui est un fantoche français. Il y a un certain nombre de politiciens qui sont poursuivis au Mali par des mandats d'arrêt pour des raisons de corruption, mais aussi des raisons de déstabilisation et de collaboration avec les djihadistes. Et c'est ces gens-là dont Bamako exige l'extradition. Mais il est bien certain qu'il n'y a aucune complicité entre Ouattara et le Mali. Au contraire, Ouattara est entièrement le porteur de valise des Occidentaux.
Voilà, merci. Alors, je m'adresse à M. Elie Hatam, juriste international depuis Paris. M. Hatam, donc, M. Luc Michel a très bien décrit donc, la situation et bien réparti donc, l'influence donc, du bloc américain et bien sûr l'Occident. Mais récemment, donc, on était témoin de l'arrestation de 49 soldats ivoiriens qui se sont rendus illégalement sur le sol malien. Et donc, le Mali a profité de la situation pour exiger l'extradition des dirigeants maliens qui se sont cachés en Côte d'Ivoire. Donc, en Côte d'Ivoire, la France a toujours une grande influence et le Mali ne veut rien savoir. Que pensez-vous ?
Eh bien, écoutez, j'ai une autre vision compte tenu des éléments qui sont en ma possession, de certaines personnes qui sont impliquées aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Mali que dans les autres pays de l'Afrique francophone. Parce qu'il y a une rivalité dans ces pays entre la France et les pays anglo-saxons et les Américains. Et ce sont les Américains qui voient depuis très longtemps d'un très mauvais œil la présence française en Afrique, notamment au Mali, mais dans les autres pays, et surtout la coopération. Dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sous influence permets de vous dire que ce n'est pas tout à fait vrai. Car il y a la bénédiction américaine qui a permis à M. Ouattara de se représenter sûr de son élection à la Suprême. Aujourd'hui, il y a un jeu américain. Il faut peut-être dévoiler, qui est très important, la déstabilisation de la RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, avec la présence américaine au Rwanda et ce que les Américains sont en train donc de faire pour déstabiliser la RDC et pour compléter leur stratégie, celui de la déstabilisation totale de l'Afrique, en particulier l'Afrique francophone. En ce qui concerne le Mali, la situation est encore beaucoup plus là parce que pour simplifier les choses, pour avoir une certitude, car sur le terrain, nous avons quand même eu des éléments assez importants, car vous savez, ce n'est pas la Russie, je dis, officielle, qui est intervenue donc en Afrique, mais ce sont des sociétés privées, c'est les sociétés en fait du standard. Donc, qui interviennent, parlent des sociétés donc, de mercenariat, puis également une intervention de différents services secrets, notamment des services américains, qui ont pour objectif de créer une tension entre les différentes forces, autrement dit les Français, avec l'opération Berkane. D'ailleurs, il faut sourire parce que cette opération pour objectif de sécuriser d'une manière indirecte la France, protéger les intérêts français. Je me rappelle voir d'ailleurs l'intervention en Russie, de la Russie, pardon, en Ukraine, c'est une menace pour la sécurité russe. Cette intervention a été condamnée internationalement et non pas celle de la France au Mali et au Sahara. Je ferme cette parenthèse, mais je reviens. Bras de fer franco-russe au Mali et dans le Sahara, et c'est complètement faux parce qu'il faut dire que ce sont les services américains qui ont fermé donc les yeux, qui ont permis à partenaires privés russes d'intervenir et de cette façon être manipulés indirectement par les Américains dans cette situation, c'est de chasser la France et à déstabiliser la région et qui et qui parle en fait de M. Ouattara et de la Côte d'Ivoire, dit quand même qu'il y a des intérêts américains qui sont en train de jouer avec l'ensemble et mettre sur le dos donc, de la France ce conflit ou ce litige qui est relatif par la détention de 46 soldats et pas 40. Ivoiriens qui sont entrés dans le Mali, parce que dans le cadre de cette coopération, donc militaire à laquelle participait la Côte d'Ivoire, et il y a quand même les personnes donc recherchées par les autorités maliennes actuelles, parce qu'il faut rappeler que ces gens sont venus après un coup d'État, donc il ne faut pas trop d'interdire. La situation est beaucoup plus compliquée qu'on le sait, démontre, parce qu'il y a des forces principales et ethniques au sein même du Mali, et il y a des forces étrangères qui mettent de l'huile sur le feu. Je ne dis pas que la
France
est complètement, sans intérêt. Au contraire, la France a besoin également de protéger ses intérêts, comme les anglo-saxons également le font. Donc, c'est la situation telle qu'elle, avec les informations donc, que nous possédons en France, et puis surtout de cette interférence
absolument
des grands acteurs dans cette région qui est encore beaucoup plus compliquée à comprendre que d'autres régions dans le monde.
Absolument. Monsieur Luc Michel, vous avez entendu les propos de Monsieur Ali Hatam.
Je ne suis pas du tout d'accord avec eux.
Allez-y, je vous en prie.
C'est la version du Quai d'Orsay et de la diplomatie française. Mais moi, j'interviens directement au Mali, notamment médiatiquement. Je suis proche des gens du Yérévolo et je peux vous dire que ce n'est pas du tout ça qui se passe. Tout d'abord, c'est un jeu à trois. Il y a un agenda américain, un agenda français, un agenda russe. Il est inexact de dire que là, ce sont les firmes paramilitaires russes qui interviennent. Ça, c'est le Quai d'Orsay, c'est Macron qui affirme ça. En réalité, il y a des accords entre l'État russe et l'État malien, d'État à État, et les firmes paramilitaires russes qui interviennent sous le contrôle du grand État-major russe sont là à ce titre d'activité. Maintenant, il y a un jeu de rivalité et de complicité entre les Français et les Américains. Les Français veulent éjecter, veulent être éjectés par les Américains du précaré français. Les Américains veulent américaniser et otaniser la guerre du Sahel. Et les Français qui ne sont pas d'accord parasitent les plans américains. En 2019, lorsque Ouattara s'est représenté, il y a eu une opération de l'administration Trump sous le trafic de drogue qui visait le premier ministre de l'époque, Bakayoko, il est mort aujourd'hui, et qui l'accusait d'être le baron de la drogue de Côte d'Ivoire. Le but, c'était de chasser Ouattara et de mettre un régime pro-américain au pouvoir à Abidjan. Ouattara a accepté de jeter du lest et aujourd'hui, il est autant lié avec les Américains qu'avec les Français. Voilà, donc actuellement, il répond à l'agenda américain, il répond à l'agenda français. Tous les deux sont opposés au régime de Bamako et ne mènent pas les mêmes opérations. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est clairement actuellement la rivalité entre Français et Américains, elle n'empêche pas la solidarité. Il y a une contradiction interne dans le bloc américain occidental. C'est que l'allié principal géopolitique, c'est-à-dire les pays de l'OTAN, et la France, qui est l'ancien gendarme des Occidentaux en Afrique, mais en même temps, il y a la guerre économique Europe-USA et dollar-euro pour lequel les Américains veulent éjecter les Français. Et pour ça, ils se servent des Allemands. Donc c'est un jeu extrêmement complexe, mais toutes les informations distillées par le Quai d'Orsay Paris, c'est de l'intoxication. Il faut clairement dire là-bas que l'opposition de la France et des États-Unis autour de Ouattara, elle est terminée depuis 2021 et la Russie intervient bien dans le cadre d'un État. C'est donc une opposition entre l'OTAN et la Russie.
Monsieur Eli Hatam, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Oui, alors je voudrais réagir sur un point qui est très important, c'est aussi le point de vue des Américains. Les Américains sont en train de caresser dans le sens du poil donc, les Français pour leur faire rêver et croire. Ils sont en train donc de protéger leurs intérêts et leur existence en Afrique, alors que l'objectif principal des Américains, c'est d'éjecter la France. Deuxièmement, la façon dont les Américains voient la présence russe en Afrique, ils considèrent que les Russes viennent tout juste de connaître le continent africain et ne sont pas si forts d'un point de vue diplomatique et politique pour comprendre ce continent. Et d'ailleurs, vous le savez, il y a quelques années, moi je vais en parler à mes amis russes, en particulier à mon ami Mikhail Bogdanov, qui était, ou qui est toujours d'ailleurs, le conseiller donc, du président sud-afrique, je disais toujours, il y a une incompréhension totale de la part de la Russie au sujet donc, de l'Afrique. Donc dire aujourd'hui qu'il y a cette opposition, non, moi je pense que les Américains sont en, ils pensent que les Russes ne seront pas en Afrique longtemps et que de toute manière, il faut absolument éjecter les Français et, comme l'a dit M. Michel, et instaurer une sorte de Pax Americana et puis d'une influence américaine, une mainmise américaine également sur l'Afrique.
Absolument. Monsieur Luc Michel, je me rappelle très bien dans une interview, vous avez dit que bon, pendant des décennies, l'Occident et les Américains ont tout fait pour affaiblir militairement, économiquement ce pays, pillant la richesse de ce pays. Mais depuis la présence russe et peut-être même de l'Iran dans ce pays, et particulièrement au Mali, ils ont apporté la stabilité et la sécurité.
Mais je suis tout à fait opposé à dire que les Russes ne comprennent rien à l'Afrique. Depuis 2015-2016, Poutine a décidé de revenir sur les pas de l'Union soviétique en Afrique. Les Américains disent qu'ils sont revenus sur les champs de bataille de la guerre froide Et depuis, il mène la guerre hybride avec l'aide des Iraniens d'ailleurs qui l'ont inventé au Liban. Les Iraniens sont en appui de la Russie depuis 2018. Il mène une politique intelligente de pénétration en Afrique qui concerne 14 pays. Aussi bien la Russie que l'Iran, ce sont des puissances pauvres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens financiers et militaires des Américains, et donc ils développent la guerre hybride pour intervenir à moindre frais, notamment avec des firmes paramilitaires. Mais la politique russe est une réussite, et dire que les Américains ne sont pas inquiets de cela, c'est tout à fait inexact. Depuis quelques mois, ils ont développé une contre-attaque intelligente qui vise la Russie. Il y a tout d'abord un volet économique. C'est la nouvelle loi américaine qui a été votée au Congrès et qui est actuellement en cours de discussion au Sénat, qui vise à empêcher les investissements économiques russes en Afrique et à sanctionner les États africains qui travaillent avec la Russie. Il y a un volet médiatique pour faire la guerre de communication. Les Américains ont créé le Global Engagement Center, qui est un organisme spécialisé pour faire la guerre médiatique en Afrique. C'est eux qui ont lancé toute la campagne contre le soi-disant groupe Wagner, qui n'existe pas. En réalité, il y a 11 firmes paramilitaires, et la firme qui est active en Centrafrique et au Mali, c'est un groupe qui s'appelle CEWA Sécurité. Les Français ont copié-collé la campagne américaine contre Wagner. Enfin, il y a une pénétration de l'OTAN et de l'Africom. Au départ, l'OTAN et l'Africom ne s'intéressaient qu'à des pays d'Afrique du Nord, c'est-à-dire essentiellement le Maroc, l'Algérie et la Libye. Mais aujourd'hui, l'OTAN est en train de se déployer dans une zone qui va du Maroc jusqu'à la mer Rouge. Les Américains, notamment les forces spéciales américaines, sont présentes partout. Et c'est dans ce plan qu'ils veulent éjecter les Français de l'Afrique centrale et les redéployer dans la côte de l'Afrique, notamment en mer Rouge et au Mozambique. Les Français ne sont pas d'accord pour des raisons économiques et ils sont venus parasiter les plans américains, notamment le plan d'américanisation de la guerre du Sahel. Oui. C'est ce qui se passe actuellement, bien entendu. Et le Mali est en pointe dans la lutte, évidemment, entre les deux blocs, c'est-à-dire entre les Français, les Américains d'un côté et les Russes de l'autre. Mais ça n'empêche pas que le but final des Américains, c'est d'éjecter les Français d'Asie centrale, d'Afrique centrale.
Tout à fait. Monsieur Luc Michel, pour terminer le débat d'aujourd'hui, j'aimerais beaucoup connaître votre opinion sur l'arrestation de 49 soldats ivoiriens sur le sol malien qui se sont entrés donc illégalement dans ce pays et que maintenant le gouvernement malien exige l'extradition de certains dirigeants maliens qui sont donc cachés au Mali. Est-ce que vous êtes sûr déjà que c'est une chose sur l'affaire ou bien il se cache quelque chose derrière cette politique?
C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a la plainte du Mali contre la France au Conseil de sécurité. Le Mali a déposé un certain nombre d'arguments et pour le moment, la France prépare une réponse à ces arguments. Mais le Mali a piégé les Français. C'est-à-dire qu'en plus des arguments qui sont présentés actuellement, le Mali dispose d'un certain nombre de preuves, notamment l'avion des mercenaires qui n'étaient pas du tout des forces liées aux Nations Unies, étaient chargés d'armements qui ont été saisis et les Maliens possèdent des documents. Donc avec l'aide de la Russie et de la Chine qui préside le Conseil de sécurité, ils veulent piéger les Français. Ça, c'est le volet mercenaire. Ce sont entrés au Mali avec des Français bleus, puisque l'habit étant que ces gens ne disent pas, ce qui est totalement faux. En réalité, ces gens qu'on présente comme des soldats, ils disposaient de faux passeports dans lesquels ils ont des professions comme cuisine, ou gens travaillant dans le bâtiment, alors qu'il s'agit en fait de mercenaires. Mais en aucun cas, leur profession de militaire ne fonctionne sur les passeports ressaisis à Bamako.
Absolument.
Donc c'est une opération beaucoup plus complexe qu'elle n'est présentée. Maintenant, le Mali se sert de cela pour présenter un certain nombre de demandes et notamment neutraliser la déstabilisation du pays qui est menée à partir d'Abidjan, notamment la présence d'un président qui se dit le président du Mali et qui est un fantoche, mais un fantoche c'est français. Il est manipulé par les Français, pas du tout par les Américains. Les
Américains
ont un autre agenda, mais ils ne sont pas liés à cette affaire de mercenaires.
Absolument. Monsieur Eliatam, votre point de vue sur la plainte auprès des Nations Unies contre la France et bien sûr cette extradition exigée par le Mali.
Bien, écoutez, vous savez, donc, c'est une véritable tension. Il faut dire une chose, c'est que les relations actuelles entre le Mali et la France sont vraiment au point mort. Mais il y a une, je dirais, une médiation qui est en cours pour calmer donc ce jeu, parce que il ne faut pas, bon, c'est mon côté en fait nationaliste français qui parle aussi, c'est que nous ne devons pas laisser tomber quand même nos intérêts en France. Je ne dirais pas comme du temps de mon ancien client Bob Denard qui intervenait. À la demande donc, de M. Focard, des réseaux Focard en Afrique, cette page est complètement tournée. Mais aujourd'hui, il y a d'autres moyens pour préserver nos intérêts et pour éviter notre éviction de ce continent auquel nous sommes liés, non pas simplement avec des intérêts économiques de ressources naturelles, mais également culturelles, et ce qui est très important pour que la France puisse exister sur la scène internationale. D'où cette médiation actuelle qui est en train de se faire à l'intervention du Togo. Et je pense que les jours qui viennent ou les semaines qui viennent feront preuve d'un certain rapprochement entre la France et le Mali. Il faut rappeler une chose, que lors des dernières élections, il y a 2 ans et demi donc, de ça au Mali, le candidat qui était plus proche donc, de la France était M. Soumaïla Cissé. N'a pas le soutien nécessaire pour être président. Ce qui prouve que ce rôle français au Mali est un peu exagéré de la part des médias et de certaines personnes qui disaient que la France pouvait faire ce qu'elle veut ou peut faire ce qu'elle veut en Afrique. Elle pouvait le faire, comme je le disais, du temps des réseaux Focard, du temps de Bob Denard. Mais cela s'est beaucoup résorbé actuellement à cause de cette influence, interférence et ce soft power américain, mais également aujourd'hui de l'implication le continent africain.
Tout à fait. Monsieur Eliatam, juriste international depuis Paris, merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission. Merci à vous, M. Luc Michel, qui est avec nous depuis Bruxelles. Nous clôturons le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Great Reset conseille à la caste de s'enrichir avec les coupures de gaz et d'électricité. Des coupures de gaz et d'électricité sont annoncées comme plausibles, voire probables cet hiver, accompagnées d'un renchérissement vertigineux des tarifs. Comme par hasard, cette situation était évoquée et même préconisée dans le Great Reset de Klaus Schwab, qui soulignait les profits faramineux que la caste pourrait retirer de la transition énergétique. Pour bien comprendre la stratégie européenne en matière d'énergie, rien ne vaut une bonne relecture du Great Reset. Bien sûr, l'explication officielle des coupures d'énergie à venir, c'est la guerre en Ukraine. Comme l'électricité n'est pas stockable et ne peut être importée que de réseaux avec lesquels nous sommes interconnectés. Et la Russie, c'est un peu loin pour faire ce genre de choses. Les coupures d'électricité n'ont donc aucun rapport avec la guerre d'Ukraine. Elles s'expliquent uniquement par le défaut d'entretien du parc nucléaire.
un phénomène de corrosion oblige à arrêter par sécurité plus de la moitié des réacteurs en activité. Cet événement intervient dans le contexte d'une baisse de production d'électricité globale par EDF. La baisse de production d'électricité a commencé dès janvier, donc bien avant la guerre en Ukraine. S'agissant du gaz russe, le fournisseur Gazprom a effectivement annoncé qu'il interrompait ses livraisons. Mais parce qu'Engie, l'importateur français, a librement décidé de ne plus payer ses factures et donc de ne plus acheter ce gaz. L'interruption des achats de gaz russe est donc une décision française que j'ai expliquée par les pressions que les États-Unis exercent sur Emmanuel Macron grâce à son dossier secret. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que malgré ces éléments factuels incontestables, une grande partie de l'opinion se laisse abuser par une russophobie savamment distillée. Il n'en reste pas moins que la crise énergétique que nous traversons résulte uniquement de notre propre incurie ou de notre choix de ne plus acheter de gaz russe. La stratégie du Great Reset continue. On peut se demander pour quelles raisons compréhensibles la caste fait le choix d'organiser une crise énergétique après avoir épuisé les opinions par une autoritaire et délibérément clivante de l'épidémie. Une explication tout à fait troublante est donnée par le livre « The Great Reset, la grande réinitialisation en français » de Klaus Schwab. On cite quelques passages du livre de Schwab. À première vue, la pandémie et l'environnement pourraient passer pour des cousins éloignés, mais ils sont bien plus proches et imbriqués que nous le pensons. Les deux ont et continueront d'avoir des interactions imprévisibles et distinctes. Certains dirigeants et décideurs qui étaient déjà à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique pourraient vouloir profiter du choc infligé par la pandémie pour mettre en œuvre des changements environnementaux durables et plus vastes. Ils feront en effet bon usage de la pandémie en empêchant que la crise n'ait servi à rien. Les gouvernements dirigés par des dirigeants éclairés associeront leurs plans de relance à des engagements écologiques. Ils offriront par exemple des conditions financières plus généreuses aux entreprises ayant des modèles économiques à faible émission de carbone. On comprend clairement le conseil de Klaus Schwab. Pour être un dirigeant éclairé, il faut profiter de la sidération produite par le Covid sur les populations pour mettre en œuvre des changements environnementaux, durables et plus vastes. Quelques lignes plus tôt, Schwab avait détaillé sa vision de l'énergie dans le monde de demain. Covid-19 n'aura servi à rien en termes de politique climatique. À l'inverse, si certaines des habitudes que nous avons été forcés d'adopter pendant la pandémie se traduisent par des changements structurels de comportement, le résultat climatique pourrait être différent. Se déplacer moins, travailler un peu plus à distance, faire du vélo et marcher au lieu de conduire pour garder l'air de nos villes aussi propre qu'il était pendant le confinement, passer des vacances plus près de chez soi, tous ces éléments, s'ils sont cumulés à grande échelle, pourraient conduire à une réduction durable des émissions de carbone. On le voit, ces propositions trouvent un très étrange écho dans la politique du président français, dont les annonces sur la grande bascule reprenaient tout le champ sémantique du Great Reset de Schwab. Comment s'enrichir avec la crise ? Dans ces éléments de langage, Klaus Schwab ajoute une formulation qui laisse planer peu de doutes sur le calcul financier qui se cache derrière cette opération. On trouve dans ce livre cette formulation sans ambiguïté. De nombreux gouvernements commencent à agir, mais il faut faire beaucoup plus pour faire basculer le système vers une nouvelle norme favorable à la nature et faire comprendre à une majorité de personnes dans le monde entier que ce n'est pas seulement une nécessité impéreuse, mais aussi une opportunité considérable. Un document politique préparé par Systemic en collaboration avec le Forum économique mondial estime que la mise en place d'une économie favorable à la nature pourrait représenter plus de 10 000 milliards de dollars par an d'ici 2030 en termes de nouvelles opportunités économiques ainsi que de coûts économiques évités. Les amateurs d'analyse sémantique remarqueront que Schwab propose ici de faire basculer le système terme que Emmanuel Macron a repris mot pour mot dans son intervention au Conseil des ministres sur ce sujet le mois dernier. Ce que veut dire ici, c'est que la transition énergétique, comme on dit désormais, est une immense opportunité financière pour vendre une multitude de produits subventionnés par les leaders éclairés pour favoriser le zéro carbone. De là à penser que la crainte d'une disparition de la planète du fait du réchauffement climatique est une opération commerciale qui permet de s'enrichir en vendant les produits qui le combattront, il n'y a qu'un pas. Une certitude existe en tout cas. La transition énergétique que propose Macron, à coup d'efforts pour en finir avec l'insouciance, ne sera pas perdue pour la caste. Bien au contraire. Et s'il y a des super profits à taxer, ce sont peut-être ceux des entreprises qui financent le WEF et qui comptent s'enrichir grâce à cette opportunité considérable qu'est le réchauffement climatique.